mentionné dans l'ouverture de l'émission « Ça brasse aux États-Unis ». Et là, on parle pas nécessairement de la politique comme telle, quoique il y a des petites ramifications politiques qu'on va aborder, mais au niveau de la sécurité civile, du sort des gens du Texas, c'est pas beau ce qui se passe là-bas. Et sans plus tarder, on va en discuter avec notre ami Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul d'Endurance. Salut Raphaël!
Salut messieurs!
Peut-être juste pour commencer, nous dresser un portrait d'à quel point la situation est inquiétante et problématique au Texas.
Elle l'est un peu moins. Je pense que c'est la première chose qu'on doit dire d'emblée. Là, ça semble s'être légèrement stabilisé depuis les dernières heures, les derniers jours, mais on a eu une semaine horrible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on a eu à peu près 3 millions de foyers au Texas. 3 millions de foyers qui ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Et c'est pas arrivé n'importe quand, c'est arrivé pendant et à cause d'une énorme tempête de neige. Donc, je sais pas si un ou l'autre, vous êtes déjà allé au Texas, là, mais tempête de neige au Texas, je pense que c'est pas une association qu'on fait nécessairement naturellement.
On n'imagine pas ça vraiment, là.
Ben, c'est ça. Mais on n'est pas les seuls à pas l'imaginer. Eux autres, même, l'ont pas imaginé. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ça s'est produit, c'est que leur système, leur grille, leur réseau est pas conçu pour ça. Il est conçu pour répondre, en fait, à des pics de consommation d'énergie, pas pendant l'hiver, mais pendant l'été. Parce que, justement, c'est déjà allé, surtout dans le sud du Texas, là, pendant les mois d'été, c'est carrément invivable. Donc, il y a énormément de demandes au niveau de l'énergie pour la climatisation, évidemment. Mais lorsqu'on est rendu en janvier, en février, il y a beaucoup, beaucoup moins de demandes normalement. Et donc, très souvent, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on en profite pour faire de l'entretien. Et c'est un petit peu ça qui s'est produit là. Donc, tout le monde se ramasse un peu déculotté avec cette tempête-là qui sort, tempête de neige qui sort de nulle part. Et donc, ce sont des milliers de foyers qui se ramassent sans électricité alors qu'on gèle dehors. Et je veux dire, ça fait des jours qu'on a des histoires, je veux dire, qui sont incroyables, qui sont d'une tristesse épouvantable. Des gens qui disent brûler des effets personnels pour pouvoir juste se maintenir au chaud. D'autres gens qui disaient qu'ils étaient rendus à carrément essayer de courir dans leur maison pour produire assez de chaleur. Là, ça n'a aucun sens. Là. Et donc, on a ça. On avait ça. On avait 3 millions de foyers. Là, on serait rendu en bas d'un million de foyers depuis hier. Donc, c'est sur la bonne voie. Mais c'est sûr que ça mène à toutes sortes de questions du genre de, un, est-ce que ce genre de crise-là peut se reproduire non seulement au Texas, mais ailleurs? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ce qui est censé être le pays le plus riche, le plus développé du monde, surtout dans un État qui est connu pour sa production énergétique, c'est surprenant pour bien des gens.
Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à Cancun, Raphaël, voyons donc. On s'en va en vacances à Cancun quand il y a de la neige au Texas.
Ça a été, comme tu le sais, la solution privilégiée.
Incroyable.
Oui, c'est incroyable comme histoire. Puis, pour ceux qui l'ont peut-être moins vu, qui ont peut-être été moins actifs sur les médias sociaux, parce que, je veux dire, c'est partout là, sur les médias sociaux depuis hier, Ted Cruz, un des deux sénateurs du Texas, qui s'est fait prendre, on se parle de se faire prendre surpris, déculotté, lui, c'en est un cas assez spectaculaire, mais pas dans le même sens, il se fait photographier à son insu mercredi à l'aéroport de Houston. Pourquoi? Parce qu'il est en direction de Cancun. Ouais. Alors que ce sont encore une fois des millions, plusieurs millions de ses concitoyens, de ses commettants, en fait, qui sont en train de mourir de froid. Et donc, énorme tollé suite à ça. Son équipe de com sort avec un communiqué dans les heures qui suivent disant, OK, on comprend qu'évidemment ça fasse réagir, mais c'était juste un petit voyage de 24 heures, un aller-retour, parce que les filles du sénateur qui n'avaient pas d'école voulaient aller à Cancun et désirant d'être un bon papa, le sénateur a voulu leur faire plaisir. Le petit punch et le petit problème dans l'histoire, c'est qu'on a appris à peine quelques heures plus tard que non, le billet qui avait été acheté à la base, c'était pas pour un 24 heures, c'était pour la semaine au complet.
Des vacances, des belles vacances.
Des belles vacances. Ouais. Je pense qu'il faut quand même être fair, en bon français, être juste et noter que Ted Cruz est un sénateur fédéral, OK? Et ceci n'est pas un enjeu fédéral en soi, c'est un problème d'État, c'est un enjeu d'État. Et donc, c'est pas comme s'il était directement responsable, non seulement de ce qui se passait, mais même de la solution. Mais en même temps, c'est ça. Je ne sais que d'un point de vue d'optique, quand t'es un sénateur, quand t'as une charge publique, et surtout quand t'as le profil que ce type-là a, tu peux juste pas faire ça. Et non seulement, donc, c'était une erreur de jugement à la base, mais tu sais, la gestion de crise, les deux, vous avez été dans le monde des médias assez longtemps pour savoir leçon de gestion de crise 101. Quand tu émets un communiqué pour être... Exactement.
Faut que tu sois présent, tu peux pas t'en aller.
Mais c'est pas juste ça, Joe. Non seulement faut que tu sois présent, mais après ça, quand vient le temps de t'expliquer, faut que tu dises la vérité.
Ben oui.
Ou tout au moins, mens pas. sais, c'est que là, c'est une gaffe après l'autre. Fait que c'est sûr que...
Dans les cours de gestion de crise, là, il y a une espèce de mantra là, qui dit « Tell the truth, tell it all, and tell it fast ».
C'est ça.
Dis la vérité, dis-la au complet et dis-la rapidement. Là, lui, il a faux sur toute la ligne. Hey, en fait, Raphaël, il nous reste juste 4 minutes, puis je veux qu'on parle d'Andrew Cuomo.
Oui.
Mais juste pour fermer sur le Texans, il y a un auditeur qui pose la question, et je trouve ça pertinent parce que je sais que t'as fouillé ça un peu. Mm-hmm. Pour Hydro-Québec, un événement comme celui qui s'est passé au Texas, est-ce que ça peut représenter une opportunité?
Potentiellement, c'est drôle, oui, que tu mentionnes que j'ai parlé au chargé des affaires gouvernementales, au boss des affaires gouvernementales d'Hydro-Québec hier. Une discussion super intéressante. Puis ce qu'il disait, c'est qu'en principe, ça pourrait faire ça dans un État qui est plus proche du Québec que le Texas. Parce que le problème avec un État comme le Texas, qui est à peu près quoi, 3000 km du Québec, c'est que on perd de l'hydroélectricité à chaque kilomètre qu'on utilise pour l'acheminer. Et donc, plus évidemment c'est loin, moins ça devient rentable pour Hydro-Québec. Mais éventuellement, c'est très possible que ce qui est en train de se passer au Texas, ça mène d'autres juridictions américaines à peut-être revisiter leur supply, là, pardonnez-moi l'expression, l'approvisionnement, leur chaîne d'approvisionnement. Et si c'était le cas, oui, potentiellement, ça pourrait ouvrir des portes à Hydro-Québec. Et une chose que j'ai apprise, qui est absolument fascinante, là, et je sais qu'on veut se garder du temps pour ce qui se passe dans l'État de New York, mais justement, parlant de ce qui se passe dans l'État de New York et dans les États limitrophes là, du Québec, saviez-vous, moi je ne le savais pas honnêtement jusqu'à hier, qu'au Vermont, des États évidemment qui donnent sur le Québec, c'est la majorité de leur électricité qui vient du Québec.
Ouais.
Hydro-Québec fournit la majorité absolue de l'électricité, toute forme d'électricité, pour les résidents, les entreprises du Vermont, c'est quand même pas rien. Donc, oui, c'est une société d'État, évidemment, mais c'est une société d'État qui a des visées, qui a des accomplissements déjà à l'étranger aux États-Unis qui sont importants.
Parle-nous d'Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York. C'est le frère de Chris à CNN. On les a vus beaucoup d'ailleurs ensemble pendant le cœur de la pandémie. Puis bon, lui, finalement, était très, très critique de l'administration Trump, sauf qu'il nous disait peut-être pas, il disait pas à tout le monde ce qui se passait dans ses propres maisons de retraite dans l'État de New York, là.
Veux-tu que je te dise, Jérôme, ce qui s'est passé dans l'État de New York? Parce qu'il y a eu, disons, un schisme, un gouffre absolument incroyable entre ce qui a été présenté au printemps dernier et ce qui s'est passé dans les faits. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais permets-moi, s'il te plaît, quand même, là, une rapide ligne du temps. Là. 19 mars dernier, Andrew Cuomo, le gouverneur, sort et déclare à ses concitoyens que l'État de New York, la ville de New York, vont pas imposer de confinement. Il y a rien de ça qui va se produire ici, mot pour mot, c'est ce que dit Andrew Cuomo. Le lendemain, pas 3 semaines, pas 4 mois après, le lendemain, confinement général qui est annoncé. Fait que ça part dans le bordel. Il va créer une espèce de panique générale autour des respirateurs. Il dit qu'il a besoin de 40 000 respirateurs minimum, faute de quoi il va avoir une hécatombe. Au sommet de la crise, il y en a combien qui sont utilisés? 4 000. 10 fois moins de ce qu'il demandait. Et demander un respirateur au gouvernement fédéral comme il l'a fait, là, c'est pas comme demander une marchette, là, on s'entend, là. Donc, il y a eu ça. Après ça, il va imposer une foule de restrictions souvent complètement arbitraires. Il a le pire bilan de mortalité lié à la COVID du continent. En fait, au printemps dernier, au sommet de la crise, si New York avait été un pays, ça aurait été le pire au monde. Et pendant ce temps-là, il va publier un livre sur le leadership. Sur le leadership, ça s'invente pas, là. Et il va accepter un Emmy Award pour ses conférences de presse. Donc, tout ça, messieurs, là, c'était l'entrée en matière. Ça, c'était de la petite bière par rapport au pire de l'histoire. Parce que le pire, là, ce qui est
Il reste 15 secondes. On n'aura pas le choix d'y revenir, je pense.
On y revient la semaine prochaine.
On te rappelle.
J'ai remis la table, messieurs. On s'en reparle la semaine prochaine.
J'ai mis la table, mais bref, son étoile qui pâlit pas à peu près. Là, ceux qui auraient voulu l'avoir comme président, je pense, vont déchanter. Hey, Raphaël, bon week-end. On s'en reparle assurément la semaine prochaine.
C'est bon, bye-bye.
Salut.
Raphaël Jacob de la chaire Raoul d'Endurant. Vous écoutez Trudeau Landry, 25226 pour nous rejoindre. On fait une pause.